Et nous allons lire à partir du verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Au chapitre 12. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? » C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr.
J'ai donné comme titre à... au message, être religieux pourrait-il vous empêcher de rencontrer Dieu? La scène qu'on a ici, que Matthieu nous décrit, c'est un bel après-midi de congé où Jésus est en train de prendre une marche avec ses disciples, avec ses amis. C'est un petit peu ça la scène qu'on a ici. Le sabbat, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, le sabbat était réservé comme une journée dans la semaine qui devait être consacrée à l'Éternel, et à prendre une journée de congé. J'oserais même dire une journée de congé dans l'Éternel, en Dieu. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de travailler, on prenait du temps avec Dieu, on prenait du temps avec la famille, on prenait du temps avec les amis. Un peu ce que les chrétiens font le dimanche, d'accord? Il y a eu un transfert avec la naissance du christianisme vers le jour du Seigneur qui est le dimanche. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est ce qui se passait à ce moment-là. C'était le jour du sabbat, c'était un temps de repos, c'était un temps pour se reposer avec le Seigneur. Et selon la compréhension de l'époque, la manière qu'il comprenait le sabbat, la manière qu'il l'interprétait, bien, en principe, un Juif n'avait pas le droit de marcher plus de 1100 mètres le jour du sabbat. C'est ce qui m'amène à dire que Jésus est en train de prendre une marche. Il y a des pharisiens qui sont là. Il n'est pas en train de traverser des grandes distances pour se rendre d'une ville à l'autre. Les pharisiens n'auraient pas été là. Jésus est avec ses disciples, il est avec ses amis, il est en train de prendre une marche. Il fait relativement beau. S'il n'y avait plus, mais je pense qu'il aurait été à l'intérieur le jour du sabbat. Et puis, ils sont en train de marcher ensemble et ils jasent. Et ils ont un bon temps. Et ils sont en train de discuter, posent des questions à Jésus. Jésus les enseigne. Et puis, pendant qu'ils sont en train de marcher, ils traversent un champ de blé. Ils traversent un champ de blé. Puis, comme ils ont une petite fringale, bien, ils se prennent un épi, puis ils commencent à manger du blé, à froisser le blé, puis à manger du blé librement comme ça. Et remarquez bien que selon la loi, les disciples ne sont pas en train de voler le cultivateur. D'accord? Ils ne sont pas en train de voler le cultivateur. Toujours dans la loi de l'Ancien Testament, il était permis, en traversant un champ, de prendre de la nourriture et en manger. La loi dit bien que tu ne te remplissais pas les poches. D'accord? Tu n'avais pas le droit de sortir ta faux de ton pack-sac en arrière puis commencer à ramasser le champ. Mais en traversant librement, tu avais le droit de manger. C'était correct. Il n'y avait aucun problème avec ça. C'est un petit peu comme si on prenait une marche ensemble dans un verger. Si on était toute la gang, ça ferait peut-être un ravage, mais avec quelques amis. On est en train de traverser un verger, puis on se ramasse une pomme. Puis c'est génial, la loi était comme ça. La loi de Dieu permettait ces choses-là. Elle incitait à une atmosphère de générosité. Donc, Jésus est en train de prendre une marche avec ses disciples. Ils sont détendus et ils jasent. Et avant d'aller plus loin dans le passage, pendant que j'étais en train de méditer ce texte-là, j'ai eu l'impression que cette scène de la vie de Jésus, journée de congé, une marche en après-midi, quelque chose comme ça, on marche dans les champs, on est en train de jaser, j'ai eu l'impression que cette scène est une belle image de ce que c'est le christianisme, de ce qu'est la foi chrétienne. Il y a toutes sortes d'images, on ne pourrait pas réduire le christianisme à prendre une marche avec un ami, prendre une marche avec Dieu, mais en même temps, il me semble que c'est une belle image qui nous aide à saisir c'est quoi la foi chrétienne. Ben c'est un peu ça. Alex a commencé à lire au verset 28 du chapitre 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Mais la foi chrétienne, c'est comme d'aller prendre une marche avec un ami après une longue journée de travail. Mon épouse Esther aime tellement ça. Lorsqu'on part, après la journée, lorsque le soleil commence à se coucher, on n'en prend jamais assez de marche. Mais sans but précis, d'accord? On a eu toute la journée, tous les tracas de la journée, la fatigue, le train-train achève, la routine achève, puis on s'en va juste marcher, juste apprécier le moment présent. On parle, on partage peut-être des soucis de la journée, des petites joies de la journée, puis on fait juste marcher comme ça ensemble. Vous savez comment c'est agréable un dimanche après-midi de partir avec des amis, puis juste prendre du bon temps ensemble, peut-être juste un café. Bien, c'est un peu ça le christianisme. Au-delà des ministères, au-delà des disciplines spirituelles, de tout le tralala de la foi chrétienne, parce qu'il y a plein d'affaires autres que ça implique être chrétien, au-delà de tout ça, c'est prendre des marches avec un ami, Jésus-Christ en l'occurrence, c'est prendre des marches avec un ami, pour jaser avec lui, lui partager nos soucis, nos joies, nos fardeaux, et Jésus est un merveilleux confident. Un ami attentif. Et ceux qui ont connu cette relation personnelle avec Christ, vous savez qu'il est capable des plus belles attentions lorsqu'on prend le temps d'aller vers lui comme ça, de nous surprendre dans sa souveraineté par toutes sortes de belles choses. Vous savez, dans les Écritures, le premier commandement selon la parole de Dieu, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Mais pensez-y un instant. Quand les disciples, cet après-midi-là, sont en train de prendre une marche avec Jésus. Jésus, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Ils prennent une marche avec Jésus, ils lui posent des questions pour comprendre, ils sont émerveillés par ses réponses, ils sont pâmés devant lui, ils disent « Mes amis, qui est sage! » Ils sont en train d'adorer, non? C'est pas ça? Ils sont à la bonne place. Ils sont en communion avec Dieu, en train de marcher avec lui, puis d'échanger avec lui, et juste de se détendre dans sa présence et dans sa sagesse et dans son explication des choses de la vie et de la parole de Dieu. Les disciples sont à la bonne place lorsqu'ils sont en train de faire ça. Ils sont en train de prendre du temps avec lui. Et trop souvent, et là je m'adresse aux chrétiens, trop souvent, nous perdons cela de vue. Nous perdons ça de vue. Dans cette image, l'essentiel de ce que Dieu attend de nous, nous est donné ici. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il n'y a rien que Dieu apprécie autant que lorsque nous prenons le temps d'aller le rencontrer et nous décharger littéralement sur lui de tous nos soucis. C'est l'un des plus beaux témoignages d'amitié envers Dieu qu'on peut avoir. Et souvent, nous perdons ça de vue. Pourtant, c'est le cœur du christianisme. Prendre du temps avec Dieu, vivre cette amitié avec lui, prendre ses marches régulièrement avec lui. C'est ça que je veux enseigner à mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants comprennent du christianisme que c'est toute une série de lois, de faire et de pas faire, de ce que j'ai le droit de faire, de ce que j'ai pas le droit de faire. Ça fait partie du christianisme. Mais c'est pas ça le cœur de la foi chrétienne. C'est pas ça le cœur de l'Évangile. Ce que je veux que mes enfants retiennent, c'est que le christianisme, c'est de vivre une amitié avec Dieu et de prendre ses marches, de prendre ce temps pour l'écouter et lui parler. Et il me semble qu'il y a là une belle image. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire quand tu arrives du travail à la fin de ta journée et que tu es fatigué, tu es brûlé avec des soucis plein la tête parce que tu as eu des décisions à prendre, parce que ton boss t'est tombé sur le dos, parce que tu as eu un accrochage avec un collègue, parce qu'il y avait trop de trafic ce soir, puis qu'il y a quelqu'un qui a eu la mauvaise idée de se taper un accident sur le pont Jacques-Cartier. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes dans le stationnement peut-être 10 minutes avant d'entrer dans la maison. Juste prendre le temps d'éteindre le moteur, prendre 10 minutes dans la prière avec Dieu. Dire, « Seigneur, je suis fatigué de ma journée. J'aimerais ça que la soirée, ce soit un temps de repos. J'ai eu des soucis aujourd'hui, puis je n'ai pas le goût de les traîner toute la soirée. J'ai besoin de ta sagesse demain quand je dois rentrer au travail et que je dois prendre des décisions. Puis j'ai besoin que tu m'aides à savoir comment répondre à cette personne-là qui me cherche tout le temps. » Juste 10 minutes avec lui. Ça pourrait être aussi à la fin de la soirée, par exemple. Avant de t'écraser devant la télé pour relaxer. Puis honnêtement, c'est génial. Je ne peux pas lire de la théologie avant de m'endormir. Je suis incapable. J'ai essayé de le faire. Je lis des biographies chrétiennes de William Carey. Puis là, j'embarque là-dedans. Puis toute la nuit, je suis en train de faire de la mission. Je vous le dis, je me réveille le lendemain matin, je suis speedé. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont capables. Je ne suis pas capable. Juste aller m'écraser et écouter les nouvelles une demi-heure. Ça me fait du bien. Mais avant de le faire. Avant d'allumer la télé, pourquoi pas juste prendre le temps de m'arrêter puis lire un psaume avec mon épouse, puis dire, chérie, avant d'allumer, on prends-tu le temps de lire un psaume? Juste de méditer là-dessus et prendre le temps de dire à Dieu, Seigneur, c'est toi mon repos. C'est pas parce que je vais allumer la télé là, que c'est ça mon repos. Mon vrai repos, c'est toi, Seigneur. C'est ton amitié, c'est savoir que demain, quand je retourne dans la jungle de la vie, t'es là, t'es avec moi. Souvent, on perd ça de vue. Est-ce que t'es dû pour recommencer à prendre des marches avec Dieu, avec Jésus? Et lorsqu'on perd ça de vue, on a tendance à devenir religieux. C'est ça qui se passe. Lorsque nous perdons l'essentiel de vue, ces moments avec Dieu, nous avons tendance à devenir religieux. Nous perdons de vue la relation avec lui et nous devenons religieux. Et quand je dis religieux, ce que je veux dire, c'est que toutes sortes de pratiques, de devoirs, toutes sortes de choses qu'on doit faire deviennent plus importantes que notre communion avec Dieu. Ça vient que ça prend la place, tout ce qu'on est censé faire parce qu'on connaît Dieu, parce qu'on connaît la parole de Dieu. Mais on a perdu Dieu de vue et on devient religieux, un peu comme ces pharisiens qui entrent en scène au verset 2. Au verset 2, il y a des personnes qui sont extrêmement religieuses qui sont là. Ce sont des gens religieux. Ils étudient la loi de Dieu et pourtant, ils ont perdu Dieu de vue complètement. Ils se sont perdus dans leur religion. Ils ne sont plus capables de voir Dieu. Vous voyez, il y a deux groupes ici. Il y a les disciples de Jésus qui marchent avec lui, puis il y a les pharisiens qui sont là, spécialistes de la loi. Ils sont censés connaître Dieu par excellence. Mais ils se sont perdus dans leur religion, dans leur pratique, et ils ne sont plus capables de voir Dieu. Ils pensent rendre un culte à Dieu et honorer Dieu, mais en fait, ils pratiquent une religion et ils ne cherchent plus une communion avec Dieu. Et le plus triste là-dedans, c'est que ce sont des spécialistes de la Bible. Il y en a quelques-uns ici dans la salle des spécialistes de la Bible. Nous sommes dans une assemblée qui a pour valeur fondamentale de connaître les Écritures pour connaître Dieu. Ce sont des spécialistes de la loi de Dieu. Et ils ont perdu Dieu de vue. Ils connaissent la parole de Dieu sur le bout de leurs doigts, mais remarquez bien, ils ne verront jamais qui se tient devant eux. Pensez-y un instant, ça fait des siècles qu'ils l'attendent. Ils étudient les prophéties pour savoir quand le Messie va arriver. Il est là devant eux. Ils ne le verront jamais. Spécialistes de la parole de Dieu. Ils ne le verront jamais. Ils se sont perdus dans leur religion. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, en examinant Jésus? plutôt que d'essayer de connaître Jésus, d'entrer en relation avec lui, ils ne cherchent qu'à le prendre en défaut. Ils se sont perdus dans leur religion. Et tout ce qu'ils font en regardant Jésus, c'est qu'ils cherchent à le prendre en défaut. En voyant les disciples de Jésus qui sont en train de cueillir des épis le jour du sabbat, ils commencent à les accuser. Maintenant, la loi de l'Ancien Testament interdisait d'une part de travailler le jour du sabbat. Et c'est tout ce qu'elle dit. Il n'y a pas beaucoup de prescriptions très, très claires dans l'Ancien Testament. C'est vrai, ça dit, il ne faut pas travailler. Alors, eux autres, ils regardent les disciples et ils disent, « Ouais, mais tes disciples sont en train de travailler le jour du sabbat. » Regarde, ils ont fait ça. Ils ont travaillé. La loi de l'Ancien Testament disait qu'il fallait pas travailler, mais elle n'allait pas plus loin que cela. Est-ce que ça se peut que Dieu, en n'étant pas plus précis, ait voulu que chacun juge selon sa conscience? Il donne le principe et chacun doit juger selon son cœur, en paix devant Dieu, qu'est-ce qui est raisonnable de faire? Je pense que c'était ça l'idée. Alors, la loi ne précisait pas tout ce que ça impliquait. Ça aurait dû être suffisant, laissant chacun juger selon son cœur. C'est pas vraiment un problème lorsqu'on étudie les Écritures puis qu'on se réunit en petit groupe dans la semaine où il y a des enseignants qui enseignent puis qui nous aident à réfléchir comment les principes de la parole de Dieu devraient s'appliquer dans notre vie. Puis on réfléchit ensemble, on dit « Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette affaire-là? » Mais ça, ces commentaires-là, ces réflexions-là ne prennent pas la place de la parole de Dieu. Ça n'a pas force de loi. C'est des réflexions qu'on fait ensemble. La conclusion de ces discussions-là, chacun devrait, selon son cœur, selon son jugement, appliquer ce principe dans sa vie. Ça aurait dû être suffisant. Mais l'être humain aime être religieux. On est fait comme ça. On aime avoir des petites lois, des petites règles, des petits rituels qui viennent définir tout ce qu'on fait et qui vont nous dire, « Mais regarde, le principe, il va jusque-là, puis si tu franchis ça, tu es en train de pécher. » Alors, les docteurs de la loi, à travers toute l'histoire, ont commencé à faire des commentaires comme ça. Le problème, c'est que ces commentaires-là, ces observations-là, en sont venus à avoir force de loi. C'est ce qu'on appelle la halakha. Et donc, la halakha, c'est la manière de vivre la loi juive. Fait que les docteurs de la loi étudiaient la loi, et puis ils essayaient de voir quelle sorte d'implication avaient les différentes lois juives. Et à travers les siècles, il y a eu toutes sortes de docteurs de la loi qui ont écrit des interprétations, des applications de sa loi. Parfois, à travers le temps, les interprétations changeaient, pouvaient varier à travers les époques. À l'époque de Jésus, celles qui étaient en vogue, selon eux, selon les docteurs de la loi, ils avaient déterminé 39 efforts que tu n'avais pas le droit de faire le jour du sabbat, ça représenterait une infraction à la loi, à l'interdiction de travailler. Dans ces 39-là, bien, il y avait celui de casser un épi en passant dans un champ. Plus tard, la loi juive, la Guémara, comme je vous dis, ça pouvait évoluer à travers les siècles, allait permettre ça. On se demande même, certains historiens se demandent si les Juifs n'ont pas été influencés par le christianisme. Plus tard, ça va être permis. Mais à tout le moins, au temps de Jésus, dans leur compréhension de l'application du sabbat, tu ne casses pas un épi en passant dans un champ, même s'il y a une loi qui te permet de le faire, tu ne peux pas le faire le jour du sabbat. Ça, c'est interdit, et là, tu es en train d'enfreindre la loi. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à accuser Jésus sur le fait que ses disciples travaillent le jour du sabbat. Pourtant, ce n'est pas clair qu'ils sont en train d'enfreindre la loi de Dieu. Ce n'est pas clair du tout. Mais ils avaient mis des règles. Jésus décide de ne pas relever ça. Si vous remarquez bien dans le passage, Jésus ne leur dit pas « Vous êtes complètement en patate, les boys, en les attaquant. » Dans d'autres passages, il va le faire. Il va dire « Ça, c'est vos lois. » Jésus va être un petit peu plus subtil dans son approche. Cette fois-ci, il veut les aider à comprendre que leur approche de la loi de Dieu n'est peut-être pas la bonne. D'une part, il veut faire ça. Il veut faire une deuxième chose aussi. Jésus veut les aider à réaliser qui est devant eux. Réalisez qui se trouve devant vous. Ces pharisiens comprennent mal la loi et ils sont tellement pris dans leur picossage de loi qu'ils ne réalisent pas qui est Jésus. D'accord? Alors Jésus leur rappelle cette situation qui nous est racontée dans l'Ancien Testament, dans le livre 1 Samuel 21. David, celui qui devait devenir le grand roi d'Israël à ce moment-là, est poursuivi par le roi Saül. Il est en fuite. Le roi Saül s'est rebellé contre Dieu et n'accepte pas l'idée que David pourrait éventuellement prendre sa place. Il le poursuit. David est en fuite avec ses compagnons. Manque de nourriture. Entre dans la maison de Dieu, le tabernacle. Il entre dans la maison de Dieu et demande à manger les pains de proposition. C'est des pains sacrés qui avaient été préparés pour le service de Dieu. Seuls les prêtres pouvaient les manger. D'accord? Jésus a faim, ses compagnons ont faim. Il va voir le prêtre puis il dit « Qu'est-ce que tu as à nous donner à manger? » Puis le texte est même pas mal plus compliqué que ça parce que Jésus David va raconter une histoire même pour arriver à ses fins. Vous irez voir ça. C'était assez osé de la part de Jésus de citer ce texte-là. Demande les pains. Les pains sont donnés à David. David mange les pains de proposition. David n'est pas un prêtre. La loi dans ce cas-là est extrêmement claire. C'était réservé pour les prêtres. Et David va manger ces pains-là. Et la Bible ne le condamne pas. Je vous relis juste les versets 3 et 4. Matthieu 12. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu? » En passant, c'est très ironique de la part de Jésus de dire ça à des spécialistes de la loi. « N'avez-vous pas lu? » Ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs, seuls. Intéressant, n'est-ce pas? David enfreint une loi très claire de l'Ancien Testament. Jésus cite ça. Jésus démontre aux pharisiens que les saintes Écritures ne sont pas aussi rigides qu'eux. J'ai le goût de dire la Bible n'est pas aussi religieuse qu'eux. Il leur dit, vous êtes beaucoup trop rigides dans votre compréhension et dans votre application. Les Écritures elles-mêmes ne sont pas aussi rigides que vous. Les pharisiens ne savaient certainement pas quoi faire avec cette histoire-là. Ça n'entrait pas dans leur pratique et toute leur interprétation de la loi. Et il semble qu'il y a des exceptions. Jésus ne va pas vraiment s'étendre ici. Mais il semble qu'il y a des exceptions où tu vas prendre un principe et il va y avoir un conflit entre deux idées que tu as dans les Écritures. Et tu vas chercher qu'est-ce qui est sage dans cette situation. Jésus est en train de leur dire, faites bien attention. Vous vous êtes perdus dans vos lois et vos pratiques religieuses et vous avez perdu de vue l'essentiel. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Vous vous êtes perdus dans vos lois, dans vos pratiques religieuses et vous avez perdu de vue l'essentiel. Ailleurs dans les Évangiles, on sait que Jésus résume toute la loi à deux lois. Ceux qui sont familiers avec les Écritures, vous savez ça, Jésus a résumé toute la loi à deux lois. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Deux lois. Pourquoi est-ce que Jésus fait cela? Je pense que Jésus fait ça parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Et il dit, honorez ces deux lois-là, vous allez honorer tout le reste. Jésus ne rejette pas la loi de l'Ancien Testament du tout, il vient l'accomplir. Mais Jésus sait que nous perdons de vue l'essentiel tellement facilement. Tellement facilement. Alors, il nous rappelle ces deux lois premièrement. Lorsque je garde ces deux commandements dans mon cœur, et vous savez, c'est pour ça qu'on a essayé de le résumer dans un slogan, dans une devise, une passion pour Dieu, de la compassion pour tous. Chaque fois qu'on va mettre quelque chose en place, qu'on va développer des choses ici, qui va contrevenir à ça, nous avons perdu de vue l'essentiel. Une passion pour Dieu et de la compassion pour tous. C'est la première chose que Jésus veut dire aux pharisiens dans ce passage. Ne vous perdez pas dans toutes vos lois, vos pratiques religieuses. Vous pourriez oublier d'aimer Dieu. Vous pourriez oublier d'aimer Dieu et d'aimer vos prochains qui sont autour de vous. Maintenant, remarquez quelque chose, d'accord? Jésus, à son époque, s'est adressé aux gens religieux de son époque. C'est bon? Jésus s'attaque aux gens religieux de son époque. Matthieu, parce que je vous lis ça dans Matthieu, a écrit son évangile pour les chrétiens. Parce que Matthieu craint que l'Église fasse exactement la même chose, qu'elle devienne religieuse. Et l'histoire de l'Église, 2000 ans d'histoire, a confirmé cela des centaines de fois. Nous sommes tous en danger de devenir religieux et de perdre de vue l'essentiel. Nous sommes tous devant ce danger-là. C'est une tendance naturelle du cœur de l'homme de tout définir dans des lois au-delà des Écritures. Par exemple, parce que je pense qu'on le fait tous sur le plan de notre histoire personnelle et individuelle. Par exemple, quand je méprise dans mon cœur une personne qui vit dans le péché ou qui commet un péché, alors qu'elle ne connaît même pas Jésus-Christ. Quand ce qui vient dans mon cœur, c'est un sentiment, une pensée de mépris. C'est religieux comme attitude, comme comportement. C'est d'une hypocrisie crasse de faire ça. Je suis le premier coupable, d'accord? Le premier. Moi. Mais pensons-y sérieusement. La seule différence entre lui et moi, c'est Jésus qui est venu dans ma vie. Et si je connais assez Jésus, je sais que des fois, c'est la seule différence. Parce que ma vie n'est pas encore assez sanctifiée et transformée. Alors, chaque fois que j'ai des pensées de mépris, de jugement, c'est de la religiosité. Regardez dans la vie de Jésus. Jésus ne méprisait pas les pécheurs. Au contraire, il se tenait avec eux. C'était sa réputation. Les gens religieux attaquaient Jésus parce que Jésus se tenait avec les pécheurs, parce qu'il se tenait avec les gens de mauvaise vie. Jésus avait compris c'est quoi être religieux. Et il avait compris c'est quoi la loi de Dieu. Est-ce que tu te tiens avec des pécheurs? Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais c'est le langage dans le texte ici. Est-ce que tu as du temps dans ta vie pour te tenir avec des non-chrétiens? Ou est-ce que tu vis à l'intérieur d'une espèce de ghetto qu'on appelle l'Église? Ce qui est excellent d'y être aussi, hein? Très bon. Mais est-ce que dans ta vie, dans ta semaine, dans ton temps, dans tes activités, dans tes hobbies, dans tes passe-temps, dans ton horaire, il y a du temps pour fréquenter les non-chrétiens? Parce que si tu veux être un disciple de Jésus-Christ, il va falloir qu'il y ait du temps. C'est ça que Jésus faisait. Puis Jésus, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il amenait ses chums chrétiens. Venez-vous-en, on va aller dans une noce. Et vous imaginez qu'après la deuxième puis la troisième coupe de vin dans la noce, c'est pas tout le monde qui avait des principes comme Jésus. Mais c'est pour ça que les gens disaient « il se tient avec des pécheurs ». Ben oui, il se tient avec des gens qui connaissaient pas Dieu. Ce qui sortait de leur bouche, c'était pas toujours édifiant. Est-ce qu'il y a de la place pour ça dans ta vie concrètement? Ou est-ce que tu es toujours refermé? Est-ce que tu as du temps pour aller luncher avec des amis non chrétiens? Ou est-ce que lorsqu'ils font un commentaire, tu es comme, « Ouh, moi je connais Dieu. » C'est facile, je vous le dis. Tellement facile. Je suis pasteur. Il faut vraiment que je fasse violence à mon horaire pour avoir du temps avec des non chrétiens, vous comprenez? C'est ce que Jésus faisait parce que Jésus avait bien compris, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, le psaume 1 dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Ainsi, Jésus se tenait avec eux, pas pour vivre comme ils vivent, mais pour les aimer et les gagner à Dieu, et leur partager l'amour de Dieu. Dans le cas des pharisiens, on pourrait dire qu'eux étudiaient la parole de Dieu, pas pour apprendre à aimer Dieu et développer une compassion et de l'amour pour les gens autour d'eux, mais pour devenir meilleurs que les autres. C'est la déformation de la religiosité. Ils étudiaient la loi pour pouvoir discerner le péché dans la vie des autres, pas dans leur propre cœur. C'est toujours là que ça nous amène lorsqu'on devient religieux. Et c'est pour ça que Jésus va citer Osée 6:6. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Vous avez perdu de vue l'essentiel. Dieu aime qu'on respecte sa loi et sa parole, il n'y a aucun doute, mais par-dessus tout, Dieu aime que nous la vivions, sa parole. Et ça, ça veut dire aimer les hommes, aller vers eux, pas tomber dans un piège de religiosité. Ainsi, Jésus montre aux pharisiens que leur approche de la loi n'est pas saine. Maintenant, Jésus veut leur montrer une deuxième chose, comme je l'ai mentionné au début. Je vous remercie d'être un petit peu indulgent. On est encore en train de s'ajuster avec les annonces, tout ça. Non seulement les pharisiens, par leur religiosité, ne comprennent-ils pas la loi de Dieu, mais en plus de cela, ils sont tellement pris dans leur religion et dans leur pratique religieuse qu'ils sont en train de manquer le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. Ça fait des siècles qu'ils attendent le Messie, qu'ils étudient les prophéties pour l'avenir du Messie, il se tient devant eux et ils ne le verront jamais passer devant lui, devant eux. Pourtant, les Écritures parlaient de lui. Alors, regardez bien ce que Jésus va faire. Premièrement, il les a critiqués sur leur approche de la loi. Deuxièmement, il veut attirer leur attention sur lui-même. Il commence par donner l'exemple de David et ses compagnons, qui, lorsqu'ils avaient faim, ont mangé les pains de proposition. Alors, on peut se demander, c'est quoi le rapport entre David et ses compagnons et Jésus et ses disciples? Pourquoi est-ce que Jésus décide de donner cette illustration-là? Jésus n'est pas en fuite, ses disciples ne sont pas en train de mourir. En fait, même contrairement à David, qui a clairement enfreint une loi de l'Ancien Testament, c'est interdit de manger ces pains-là, bien, les disciples de Jésus, c'est pas clair qu'ils ont fait quelque chose de mal. Alors, il semble qu'il y a plus que ça ici, dans le passage. Et vous allez voir, son argument tranquillement tourne vers ça. Regardez bien, si la loi de Dieu a été, disons, suspendue pour David, d'accord? Si la loi de Dieu a été suspendue pour David et ses compagnons, même une loi biblique très, très claire, est-ce qu'il n'y aurait pas de bonnes raisons pour suspendre la loi des hommes pour Jésus et ses disciples? Est-ce que Jésus peut être comparé à David? Ceux qui sont familiers avec les prophéties, on sait que le Messie était appelé, même dans Jérémie, même avant qu'il vienne, le fils de David. Parce que le Messie devait être celui qui accomplissait les promesses qui avaient été données à David, c'est-à-dire un trône éternel. Il devait être descendant de David, fils de David, et régner éternellement. Mais c'est comme si Jésus est déjà en train de donner son argument puis dire, « Hey les amis, il y a plus que David ici. » Et il va le dire plus explicitement en comparant avec le temple. Alors, il continue son argument au verset 5, il dit, « Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre coupables? » La loi le permettait. Elle disait, « Ben, il va falloir que ces gens-là travaillent, évidemment, s'ils font le sabbat, s'ils font le service le jour du sabbat. Alors, eux vont être en train de travailler le jour du sabbat. » Il y avait une provision pour cela. Maintenant, Jésus continue en disant, « Or, je vous dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » De quoi Jésus est en train de parler? Il y a plus que le temple ici. On sait dans d'autres passages que Jésus va se comparer lui-même au temple. Dans l'Ancien Testament, le temple et tout le système sacrificiel, ce qui se passait dans le temple, avait été donné, entre autres choses, pour annoncer la venue d'un sacrifice parfait un jour, en qui viendrait s'accomplir toute chose. Jésus est l'accomplissement de tout ce que le temple annonçait. Et donc, Jésus est en train de leur dire, par ma venue, par l'inauguration du royaume que je suis en train de faire, il y a plus ici que le temple. Si les prêtres avaient le droit de travailler le jour du sabbat pour servir dans le temple, est-ce que mes disciples n'ont pas le droit de récolter quelques épis pour être avec moi? C'est fort ce qu'il est en train de faire. C'est fort ce qu'il est en train de faire. Et il veut attirer leur attention. Et Jésus va continuer son argument en donnant un exemple lui-même avec ce miracle qu'il va faire le jour du sabbat. Le jour du sabbat, il va guérir un homme qui a la main sèche. Et il veut leur montrer qu'il est maître du sabbat. Pas qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais qu'il a autorité même le jour du sabbat. La manière que Matthieu présente ça à quelques reprises, ça nous est rapporté dans Matthieu, c'est comme un argument à plus forte raison. Tout ce que Dieu avait à faire s'il n'était pas d'accord avec Jésus, c'est Jésus dit que ta main soit pure. Puis elle ne guérit pas. Mais elle a guéri la main. Parce que Dieu appuyait ce que Jésus est en train de dire. Jésus est maître du sabbat, c'est le Messie. Il fait vraiment tout pour dire, hey, sortez de votre religion, les boys. I'm here. C'est maintenant que ça se passe. Verset 14, regardez avec moi. Les pharisiens sortirent. C'est la conclusion de toute cette section-là. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Ces gens-là étaient tellement pris dans leur religion et dans leur petite loi qu'ils vont consacrer toutes leurs énergies à critiquer et à attaquer celui qu'ils attendent depuis des siècles. Ils l'attendent. Il est là. Et ils vont consacrer toutes leurs énergies à l'attaquer et même à se préparer à le mettre à mort et à le crucifier. Ils ne verront jamais Jésus-Christ. parce que leur religiosité les a empêchés de rencontrer Dieu et de voir Dieu. D'un côté, il y a les disciples qui sont là et qui passent leur après-midi de congé à marcher avec Jésus, à prendre du bon temps avec lui, à écouter ses enseignements. Ils sont en train d'adorer Dieu sans le savoir. Je ne pense pas qu'ils étaient vraiment conscients de tout ça à ce moment-là. Mais ils sont avec Jésus, ils sont à la bonne place, ils sont en communion avec lui, ils prennent un temps avec lui, ils l'écoutent parler. Et d'un autre côté, il y a ces gens religieux qui ont perdu Dieu de vie dans leurs pratiques religieuses. Leurs devoirs religieux prennent toute la place et ils ne vivent plus de communion avec Dieu. Ils ne sont plus près de Dieu. Je m'adresse en terminant premièrement à ceux qui sont chrétiens ici ce matin. C'est très facile, à travers tous nos devoirs, toutes les activités qu'on a à faire, toutes nos responsabilités, tout ce qu'on se met aussi comme poids sur les épaules dans notre compréhension de la Bible. Fais ci, fais ça, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est très facile pour nous d'oublier Dieu et d'arrêter d'aller prendre des marches avec Dieu. D'arrêter d'aller vers Dieu quand je suis fatigué, quand je suis épuisé. D'arrêter d'aller ouvrir les Écritures pour l'écouter me parler. C'est très facile pour nous d'arrêter de prendre un temps pour le louer et lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Est-ce que tu as perdu cela de vue? Parce que ça va amener plein de conséquences dans ta vie. Tu vas t'enfoncer dans une religiosité pernicieuse et dangereuse. Tu vas en venir à cesser d'aimer Dieu et cesser d'aimer les gens autour de toi. Est-ce que ça se peut que tu sois dû pour prendre du temps avec Dieu? Et juste prendre le temps d'aller à la rencontre de ton Dieu et lui dire « Je t'aime ». Et les deux choses les plus importantes dans ma vie, c'est de t'aimer et d'aimer les hommes que tu places sur mon chemin, d'aimer les gens que tu places sur mon chemin. Maintenant, j'aimerais ça m'adresser à ceux ici ce matin qui ne sont pas chrétiens. Peut-être que vous venez d'une famille chrétienne. Peut-être pas. Peut-être que vous êtes ici pour écouter. Est-ce que ça se peut, sans être religieux, que vous soyez un peu dans l'attitude des pharisiens, c'est-à-dire, il y avait ceux qui marchaient avec Jésus, qui étaient en relation avec lui, et il y avait les autres. Les autres, bien, on aurait pu penser qu'ils faisaient quelque chose de légitime. Ils sont là avec leur calepin de notes, Jésus est là-bas, et ils prennent des notes sur Jésus. Ils sont en train de l'examiner de loin. Il y a quelque chose de saint là-dedans, il y a un moment pour faire ça, d'accord? Il y a un temps pour examiner Jésus, examiner la foi chrétienne et dire, ça tient-tu cette affaire-là? J'ai besoin d'analyser. Excellent. Maintenant, pour entrer en relation avec quelqu'un, à un certain moment donné, il faut déposer le calepin de notes. Et c'est vrai dans toutes les relations. Ça a été comme ça quand j'ai invité Esther au restaurant. J'ai déposé le calepin de notes. Puis j'ai dit, on va-tu manger ensemble? J'aimerais ça te connaître. J'aimerais ça prendre du temps avec toi. Faire un pas de foi. Je l'ai fait pour vivre ces 16 belles années avec mon épouse. Je l'ai fait dans toutes mes amitiés. Ça prend ce moment où on dépose le calepin de notes. Est-ce que tu es rendu là? Est-ce que vous seriez rendu là? C'est juste lorsque vous allez déposer le calepin de notes et que vous allez dire seul, avec Dieu, « Dieu, j'aimerais ça te connaître. Parle-moi. Rencontre-moi. Fais-moi comprendre ton message. » Est-ce que ça se peut que vous soyez rendu à ce moment-là dans votre vie? On va prier ensemble. Ô Seigneur, Seigneur, cette nature pécheresse ne nous laissera donc jamais jusqu'à la fin? Parce qu'en lisant ces passages, je voyais tellement de piège pour moi de devenir religieux, Seigneur, de te perdre de vue que le christianisme se résume à mes yeux comme une série de devoirs. Et j'avais besoin que tu me rappelles que ton joug est léger et que venir à toi, c'est se décharger de nos péchés, de nos soucis, de nos inquiétudes et de prendre du temps avec toi. Seigneur, viens te faire connaître à nous. Ramène-nous à la maison. Ramène-nous dans cette relation d'amour avec toi. Et viens, Seigneur, faire briller ta lumière dans nos cœurs et dans cette société. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous donnons l'image que le christianisme, c'est un ensemble de lois, plutôt qu'une relation avec Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te représentons si mal, tellement souvent auprès de nos amis. Mais donne-leur, Seigneur, de découvrir la lumière de ton amour et qu'elle puisse pénétrer dans cette société, dans cette ville et dans nos cœurs d'abord et avant tout. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.